RFI 19h30 ici à Paris, l'heure est au débat.
Le débat du jour. Romain Ozoui.
C'est le branle-bas de combat, c'est le moins qu'on puisse dire, parmi la classe politique française. Tout le monde a été pris de court hier soir, quand, peu de temps après l'annonce des premiers résultats des élections européennes, Emmanuel Macron a pris la parole depuis l'Élysée. « Je dissous ce soir l'Assemblée nationale ». Voilà ce qu'a déclaré le président français. Des législatives anticipées vont donc être organisées. Les scrutins auront lieu les 30 juin et 7 juillet prochains. Décision à haut risque. Et cela à l'issue d'une journée qui a été marquée par la victoire haut la main historique de l'extrême droite. Notre question ce soir, Emmanuel Macron peut-il réussir son coup de poker? Comment peut-il y parvenir? Comment gauche et droite peuvent-elles s'organiser, éviter une victoire du Rassemblement national lors du prochain scrutin? Jordan Bardella, leader du RN, peut-il devenir le futur Premier ministre de la France? Soyez les bienvenus dans le débat du jour. Et pour répondre à ces questions, nos trois invités ce soir à mes côtés en studio, Philippe Moreau-Chevrolet, bonsoir.
Bonsoir.
Spécialiste en communication politique, président de MCBG Conseil, professeur à Sciences Po. Face à vous, Frédéric Savicky, bonsoir.
Bonsoir.
Professeur de sciences politiques à l'Université Paris 1, Panthéon, Sorbonne. Et notre troisième invité est en ligne avec nous. Bonsoir Jean-Philippe Moinet.
Bonsoir et merci de votre invitation.
Et je vous en prie, fondateur, directeur de la revue civique, auteur du livre Un journal sous influence, merci à vous d'avoir répondu à l'invitation du débat du jour sur RFI. Merci à vous trois. D'abord, Philippe Moreau-Chevrolet, comment on peut expliquer cette décision d'Emmanuel Macron? Parce que il faut le rappeler, la dissolution de l'Assemblée nationale, c'était une demande répétée de Jordan Bardella, le leader du Rassemblement national, tête de liste aux élections européennes hier soir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Emmanuel Macron a tout simplement cédé à la demande du RN?
Alors, ça peut être interprété comme ça, effectivement. Alors, visiblement, cette solution a été envisagée depuis plusieurs mois par le chef de l'État. La décision de le faire aurait plus ou moins été prise fin mai. Enfin, ça aurait été plus avancé fin mai et évidemment mise en œuvre là. Alors, pourquoi il le fait? Pour, à mon avis, deux raisons. D'abord, ça permet de déguiser une défaite qui est colossale, hein. En autre chose, donc ça permet de déplacer le centre de l'attention, et ça, il est extrêmement fort et attentif à ça, Emmanuel Macron. Et puis la deuxième raison, c'est que ça lui permet de reprendre la main pourquoi pas de remodeler une majorité à son image, ou en tout cas de, s'il doit faire face à une cohabitation, d'être le recours des Français si la cohabitation se passe mal, si Jordan Bardella, ça c'est la thèse de l'Élysée, n'arrive pas à gouverner de manière satisfaisante, alors les Français verront la lumière, c'est toujours la thèse de l'Élysée, et se diront finalement c'était bien quand on avait des gens compétents. Bon, tout ça c'est... Comment dire? C'est du jus de crâne.
On en est là pour le moment.
Voilà, c'est de la matière de conseiller. C'est très très bien en théorie. Sur le papier, ça fonctionne admirablement bien. Dans la réalité, le RN a vu reconquête aujourd'hui pour une possible alliance électorale. Dans la réalité, il y aura certainement des LR qui en ont marre d'être dans l'opposition et qui se disent pourquoi pas avec Bardella. Dans la réalité aussi, les Français ont voté massivement pour le RN. La carte aujourd'hui, quand on regarde la carte électorale, elle est Bardella, elle est bardellisée complètement. Ouais. Provoquer une dissolution quand la carte est devenue brune, c'est une prise de risque absolument considérable.
On va tenter de façon dans ce débat du jour de tracer des perspectives, même si évidemment il va se passer beaucoup de choses et on en saura beaucoup plus dans les prochains jours, d'ici le 30 juin en tout cas, évidemment, date du premier tour de ces législatives anticipées. Frédéric Savicky, déplacer une défaite pour Emmanuel Macron, nous dit Philippe Moreau-Chevrolet. Je vais rappeler les scores d'hier parce qu'effectivement ils sont historiques. Je vais rappeler le score du premier, Jordan Bardella, RN, 31,4%. Deuxième, Valérie Ayé, donc tête de liste Renaissance, de parti d'Emmanuel Macron. 14,6. Il y a plus de Jordan Bardella a fait plus du double.
Oui, alors il faut quand même bien peut-être rappeler que depuis juin 2022, le président ne dispose pas de majorité à l'Assemblée nationale, qu'il a essayé d'essayer de rallier notamment le groupe LR pour constituer une majorité un peu stable. Ça n'a pas marché. Les propositions, les projets de loi qui ont été présentés, bon, on a évidemment tous en mémoire le moment de la réforme des retraites, ont déjà montré quand même la fragilité de ce pouvoir qui en était réduit à utiliser le 49-3, quitte à se rendre extrêmement impopulaire auprès de la population. Depuis plusieurs mois déjà, on avait à la fois d'un côté des lois qui étaient de plus en plus, des projets de loi qui étaient de plus en plus rabotés ou négociés avec divers membres des oppositions à Emmanuel Macron, et en même temps la menace d'une éventuelle motion de censure déposée par LR à l'encontre de la politique économique et sociale du gouvernement. Donc, d'une certaine façon, cette situation, on pourrait dire, d'ensemble, globale, institutionnelle, appeler à un moment ou à un autre une action du chef de l'État et probablement une dissolution. Alors on peut discuter évidemment ensuite de l'opportunité du moment. Il aurait pu attendre, mais attendre quoi? Éventuellement une motion de censure. Là, il prend tout le monde de court, il provoque une campagne électorale rikiki, extrêmement brève, qui met tous les partis au pied du mur et dans l'embarras. NUPES particulièrement divisé, mais aussi LR divisé. Bon, RN et Reconquête, on verra ce que ça donnera. Dans l'espoir de quoi? Peut-être effectivement de provoquer un front républicain dans les urnes, mais qui ne s'est pas donné les moyens de construire, ni depuis 2017 et encore moins depuis 2022. Donc c'est extrêmement risqué. Donc deuxième solution, d'apparaître comme le protecteur, le garant des institutions, de la position internationale de la France, de l'équilibre de la société. Mais là, rien ne dit que ça marche, parce que pour incarner ce qu'avait fait François Mitterrand en 1986, ou même Jacques Chirac progressivement après 1997, une espèce de président arbitre, protecteur, il faut être crédible dans le rôle. Et là, s'il y a bien un rôle que Emmanuel Macron s'est montré absolument incapable d'endosser depuis 2017, c'est celui de protecteur, rassembleur, à l'écoute, arbitre. Et c'est là, effectivement, qu'est le principal danger. C'est-à-dire que si sa stratégie, s'il en a vraiment une claire et définie, ne fonctionne pas, c'est-à-dire que s'il n'y a pas un rassemblement, malgré tout, qui empêche une majorité de députés du Rassemblement national d'être élus, et bien à ce moment-là, je pense qu'on aura un président qui aura beaucoup de mal à convaincre que si le pays et si le gouvernement échoue, c'est d'abord de la faute de l'incompétence des parlementaires RN plutôt que de la sienne propre. Et je pense que c'est là, à mon avis, que réside le grand danger, c'est-à-dire un président qui se fourvoie sur ce qu'est réellement sa crédibilité, son autorité et ses pouvoirs.
Et ça augure évidemment un Parlement extrêmement fracturé, on va en parler. Jean-Philippe Moinet, Emmanuel Macron n'avait pas d'autre corde à son arc pour acter cette défaite que de dissoudre l'Assemblée nationale ?
Si, sans doute, il y avait d'autres cordes à l'arc politique et constitutionnel. C'est une pluralité d'options qu'il pouvait avoir jusqu'à hier soir. Il a choisi la corde la plus dure, j'allais dire, la plus sensible et la plus surprenante avec le côté...
La plus dangereuse
audacieux du choix, risqué aussi du choix, mais aussi le fait, c'est son pari aussi, c'est que nous rentrons dans une période historique. Car il faut souligner et rappeler que la France n'a jamais eu un pouvoir d'extrême droite depuis 1940. Donc ça fait deux républiques, la quatrième et la cinquième, où le parti d'extrême droite était soit très minoritaire ou absent, soit légèrement minoritaire encore, mais jamais à la porte du pouvoir. Là, les Français vont devoir choisir. Et donc ça change la donne pour deux raisons. La première, c'est que chaque élection a son alchimie. Et c'est vrai que les européennes, il faut rappeler aussi que le premier parti de France, c'est 48,6% d'abstentionnistes. C'est un fait qui passe relativement inaperçu et, à mon avis, à tort pour l'analyse générale de la crise démocratique que nous traversons, mais aussi pour mesurer ce qui peut se passer dans trois semaines de différents.
Pourtant, l'abstention, elle n'était pas record hier soir, il faut le préciser, loin de là.
Elle n'était pas record, elle était même, la participation était légèrement en hausse
par rapport à il y a cinq ans.
Rendons-nous compte qu'une moitié d'électorat, ce qui est énorme, ne s'est pas exprimé hier. Une partie de cet électorat abstentionniste va s'exprimer dans trois semaines et surtout le 7 juillet. Pourquoi ? Parce que finalement, nous sommes encore une fois dans une circonstance tout autre où le pouvoir parlementaire et gouvernemental est en jeu. Et une partie des électeurs, y compris d'ailleurs, du côté des sympathisants de l'extrême droite, pouvaient penser que les européennes étaient sans impact. Là, ouais. Cet argument tombe. Et donc, ça crée une tension supplémentaire et donc un enjeu qui n'existait pas il y a encore 24 heures. Et donc, de ce point de vue-là, l'alchimie va changer. Alors, est-ce que le vote va changer complètement? Ce n'est pas sûr, mais il faut aussi souligner un aspect technique, c'est que la bataille ne se jouera pas en un tour sur une liste nationale, mais sur 577 circonscriptions avec deux tours. Et c'est vrai que jusqu'à présent, y compris à la dernière présidentielle, le Front National devenu Rassemblement National a plafonné, alors très haut, hein, c'était à 41,5% au deuxième tour de la présidentielle, mais il n'a pas eu ces fameux 50%. Et là, il faudra que dans une majorité de circonscriptions, le RN passe de 31,5% hier à 50%.
Non, et donc, non, c'est quand même c'est un enjeu. Si c'est des nouveau. Triangulaires, il n'y a pas besoin de 50% pour être élu alors, dans une législative. On ne peut pas dire vrai. Ça.
C'est vrai que les triangulaires peuvent arriver. Et c'est là que se joue, peut-être dans certains cas, pas tous, mais le sujet du désistement républicain qui n'a pas été évoqué jusqu'à présent. Autant je pense que le Front républicain est lézardé, c'est le moins qu'on puisse dire, mais l'idée d'un désistement républicain pour que le mieux placé des candidats dits républicains au premier tour soit seul face au RN n'est pas une idée totalement farfelue.
Philippe Moreau-Chevrollet, revoilà le Front républicain ? Il avait volé en éclats. Est-ce qu'il réapparaît parce que le RN, l'extrême droite, n'a jamais été aussi proche d'arriver au pouvoir avec un Premier ministre issu de l'extrême droite et est-ce que c'est le pari d'Emmanuel Macron, le tous contre Macron, qui était un petit peu l'enjeu de ces européennes, peut devenir le tous contre le RN?
C'est compliqué parce qu'il y a des fractures qui sont passées par là. Le pari du chef de l'État, c'est ça, c'est de se dire je vais peut-être pouvoir récupérer une majorité ou au moins ne pas trop perdre et je vais pouvoir endiguer la progression du RN. Donc on va poser le match RN, tout de suite, au lieu d'attendre 2027. On va évacuer la question ou alors on va supporter le RN au pouvoir, le discréditer, etc. Donc c'est vraiment l'idée. Après, encore une fois, c'est une belle idée en théorie. En pratique, les projections qu'on a, qui sont pour l'instant confidentielles, mais sur, non pas les sièges, mais sur les intentions de vote en général par bloc, confirment plutôt un affrontement RN-NUPES, avec une majorité quand même assez loin derrière. Donc je ne sais pas.
C'est plus ou moins confidentiel, parce qu'il y a un sondage qui est sorti aujourd'hui, Harris Interactive Toluna. RN 34% des voix au premier tour et NUPES, donc gauche unie, si elle arrive à s'unir, on va en parler évidemment dans ce débat, 22% d'intention de vote. Oui. Donc il y a quand même une grosse différence de 34% pour le RN à 22% pour la gauche unie.
Le RN, pour moi, enfin, voilà, d'une analyse spontanée, on va dire, et d'une certaine expérience, je pense que le RN est tout à fait capable d'avoir une majorité relative ou absolue. Je pense qu'il peut l'avoir. Il est en train de s'unir à Reconquête, on l'a vu aujourd'hui.
Oui, il y a eu une réunion entre Marion Maréchal et,
en ce moment, d'ailleurs.
Et Jordan Bardella, et elle a dit qu'elle avait le désir ardent d'un rassemblement entre Reconquête et le RN. Bon, c'est pas surprenant.
Non, c'est pas surprenant, mais enfin, quand même, c'est une dynamique. Et puis, ils peuvent agréger des gens du LR aussi. Le LR est en perdition aujourd'hui. Donc, moi, je parierais pas sur une défaite, comme on vient de le dire, et ça a été très bien dit, il y aura des triangulaires. Je suis pas sûr que, comme la dernière fois, la NUPES avait eu beaucoup de députés et les filles élues après des triangulaires où ils étaient opposés au RN et où les électeurs s'étaient dit je vais voter plutôt et les filles. Sincèrement, aujourd'hui, si vous êtes un électeur modéré et qu'on vous donne le choix entre RN et les filles, après tout ce qui s'est passé, je ne suis pas certain que vous choisissez les filles. Donc la solution ne sera pas la même. Et ça, c'est quelque chose que l'Élysée n'a probablement pas anticipé, parce qu'ils sont dans des calculs très macro, comme on dit, mais pas vraiment sur l'action.
Frédéric Savicky, vous y croyez à la constitution de ce Front républicain et est-ce qu'effectivement, comme le disait aussi Jean-Philippe Moinet, finalement, le taux de participation il va être plus fort pour ces législatives, parce qu'il y a cet enjeu?
Il faudrait savoir pourquoi on va voter, c'est-à-dire que quel est le programme. C'est-à-dire, là, on va avoir des candidats qui vont se présenter pour Renaissance et pour la majorité présidentielle. Qu'est-ce qu'ils vont dire à leurs électeurs? C'est-à-dire, on est prêt à gouverner avec qui pour faire quoi? Si tout se résume à une question de confiance, est-ce que vous êtes pour un gouvernement demain majoritairement conduit par le Rassemblement national, éventuellement Reconquête, ou on ne sait pas quoi?
Mais c'est quoi l'autre enjeu que, est-ce que vous voulez le RN ou est-ce que vous ne voulez pas le RN?
Et c'est là qu'on peut effectivement s'interroger quand même, alors on va voir dans les prochains jours, sur la capacité quand même de projection simplement sur le moyen terme du chef de l'État et de son parti. C'est-à-dire que c'est quoi le calcul? C'est-à-dire, est-ce que c'est de dire on est prêt à gouverner avec la gauche? On est prêt à gouverner avec une partie où tout est LR sur un programme qui serait lequel? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait sur l'immigration?
Ça, c'est le camp
Macron. Voilà. Oui, c'est là. Là, on ne peut pas simplement dire aux électeurs, écoutez, il y aura des candidats pro-RN et d'autres qui sont anti-RN, et puis choisissez. Quoi.
Mais il y a un programme qui va être bâti en quelques jours.
Je n'en sais rien.
C'est dans les prochains
jours. Pour l'instant, ce qui est quand même très surprenant, c'est qu'on ne voit pas encore très très bien quelle est la stratégie politique qu'il y a derrière. Si la stratégie politique, c'est de dire nous proposons un accord de gouvernement uniquement à LR ou éventuellement qui irait jusqu'à le Parti Socialiste, les écologistes autour d'un programme, là peut-être que les électeurs pourraient être sensibles à ça et se dire on y va. Mais si c'est uniquement est-ce que vous voulez garder Emmanuel Macron et puis sa politique qui est quand même une politique assez minoritairement soutenue dans le pays, et puis plutôt que le RN, c'est-à-dire le chaos, ça ne peut pas marcher. C'est-à-dire qu'il faut qu'on nous... si on veut que les électeurs aillent voter, tout simplement, et se disent, c'est pas possible de laisser le RN mettre en place tel dispositif, il faut qu'en face, on sache quelle va être la majorité alternative. Et pour l'instant, évidemment, c'est plutôt le chaos que la clarté. Qu'est-ce que va faire LR? Qu'est-ce que va faire le Parti Socialiste? Est-ce qu'au deuxième tour, effectivement, il y aura un appel unanime de tous les partis de la coalition de gauche pour dire, si c'est un macroniste qui est devant, on vote Renaissance plutôt que RN? Ou est-ce qu'on laissera les électeurs décider? C'est pas la même chose. Est-ce qu'on va maintenir les candidats, pas les maintenir? Tout ça doit se décider dans la précipitation et surtout dans un flou absolument incroyable.
Ouais. Il y a quand même 40% des Français il y a 40% des électeurs français, en tout cas, qui ont voté, ceux qui se sont exprimés, qui ont voté pour l'extrême droite, c'est monumental comme score. Je ne crois pas une seconde qu'on aura des législatives qui redonneront une majorité au gouvernement.
40% des électeurs, c'est pas 40% des Français. Hein,
non, 40% des électeurs qui se sont exprimés ont voté pour l'extrême droite. Je ne crois pas que la majorité puisse être reconduite.
C'est plus fort que lors de la présidentielle.
Mais c'est sans précédent dans l'histoire française. C'est un séisme. Je ne vois pas comment la majorité peut espérer être reconduite dans ces conditions.
Il y a Jean-Philippe Mollet. Mais vous, Philippe Morochevrolet, vous pensez que ce vote, il va être renouvelé le même? Les électeurs vont être les mêmes.
Il peut même être amplifié comme lors d'une présidentielle. On peut très bien, j'ai consulté pas mal d'analystes et de gens qui ont une certaine expérience, pour qui il est possible que ça ait un effet de ce type-là. Oui.
Jean-Philippe Moinet, la balle dans le camp d'Emmanuel Macron. Est-ce que il va faire une explication de texte? Est-ce qu'il va y avoir une sorte de service après-vente après, encore une fois, cette annonce qui a pris tout le monde de court, je le disais au début de cette émission, qui a surpris tout le monde, comme le disait Philippe Morochevrolet, il y a juste quelques personnes qui semblent être au courant de ce projet de dissolution de l'Assemblée nationale. Il a parlé quelques minutes après des résultats qui étaient encore partiels. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il va intervenir dans les prochains jours et qu'est-ce qu'il peut dire?
Oui, ça a été évoqué, la probabilité d'une intervention, d'une sorte d'explication de décision de dissolution, sachant que ça a surpris tout le monde, y compris son propre camp. Ça a surpris aussi et pris de court l'état-major du Rassemblement national, qui ne s'attend pas à distribuer les postes gouvernementaux demain matin pour décider qui sera au Rassemblement national, ministre de l'Éducation nationale, ministre de l'Intérieur et autres fonctions. Donc le trouble est assez présent dans tous les états-majors, que ce soit aussi ceux de la NUPES, qui doit reconstituer un cartel électoral dans les conditions de désaccord qu'on a bien vu pendant cette campagne des européennes. Mais je pense qu'il faut être prudent sur l'effet de surprise, y compris des électeurs qui ont ce génie en France de créer des situations eux-mêmes différentes à chaque élection. Et on se souvient d'ailleurs la surprise qui a été celle des législatives de 2022, où les électeurs ont, dans un scrutin majoritaire censé donner de larges majorités, quoi qu'il arrive, a finalement été dans une situation de quasi-scrutin proportionnel où il n'y avait pas de majorité absolue. Et là, C'est vrai qu'il y a beaucoup d'éléments qui plaident pour la thèse de la mise en difficulté le soir du deuxième tour de la majorité sortante. Hein, et ce serait aveugle de ne pas l'observer. Simplement, je pense qu'il va y avoir des éléments de campagne et de motivation des électeurs qui vont changer. Mmh. C'est ça qu'il faut, me semble-t-il, avoir en tête, et que les Français, y compris encore une fois une partie de ceux qui sont tentés par le vote Rassemblement national, n'ont peut-être pas envie de les mettre au pouvoir demain matin. Ils peuvent vouloir exprimer un vote protestataire considéré à tort d'ailleurs gratuit aux élections européennes, mais de là à passer à une décision collective et réfléchie d'installer le jeune Bardella à Matignon et une vingtaine de ministres à Rassemblement national, je pense que beaucoup de Français vont réfléchir plus d'une fois d'ici le 30 juin et le 7 juillet, et que les choses vont bouger, y compris dans la campagne, y compris d'ailleurs à gauche, qui reconstitue finalement une forme d'union annoncée. Est-ce qu'elle va suffisamment fonctionner, hein, parce que la gauche a quand même atteint plus de 30% quand on ajoute chacun des compartiments, donc c'est pas rien, c'est quasiment autant que le Rassemblement national. Et puis au centre, ça s'est rétréci effectivement fortement, et il y a peut-être une réserve qui peut être la source de calcul de la majorité sortante, une réserve dans le grand électorat abstentionniste d'hier.
RFI, le débat du jour, Romain Ozoui.
Emmanuel Macron peut-il réussir son coup de poker? La question qu'on pose ce soir, Jean-Philippe Moinet a bien établi déjà les perspectives à venir d'ici au 30 juin, date du premier tour des élections législatives anticipées suite à la dissolution de l'Assemblée nationale. On va en parler à présent de ces perspectives dans cette seconde partie de débat. Jean-Philippe Moinet, donc fondateur et directeur de la revue Civique. Frédéric Savicky, professeur de sciences politiques à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Philippe Moreau-Chevrolet, spécialiste en communication politique, président de MCBG Conseil et professeur à Sciences Po. Donc on a beaucoup expliqué ou tenté d'expliquer les raisons qui ont poussé Emmanuel Macron de prendre cette décision de dissoudre l'Assemblée nationale, de convoquer ces élections législatives anticipées. Maintenant, j'aimerais, je vous pose la question, Philippe Moreau-Chevrolet, vous posez la question, qu'est-ce qui peut inverser la tendance de cette perspective d'un Jordan Bardella, leader du RN, Premier ministre en France? Est-ce que, parce que vous avez dit que c'était tout à fait possible qu'il y ait une majorité qui se dégage en faveur du Rassemblement national, est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qui fait déjà pour que nos auditeurs comprennent bien que Bardella peut se retrouver Premier ministre ou pas? Et puis, qui a le plus entre les mains la possibilité d'inverser cette tendance? Est-ce que c'est à gauche, est-ce que c'est à droite que ça peut se produire?
C'est très difficile de répondre à cette question parce que la situation qui est créée est celle d'un chaos. On est dans un désordre, dans le désordre. Donc on avait une situation de base avec la guerre en Ukraine, avec la situation à Gaza et les différentes répercussions que ça a eu en interne, très volatiles. On ajoute à ça encore plus de désordre. Une période où il aurait fallu du calme. C'est votre confrère, le journaliste Tristan Mendès France, qui disait ça, on a besoin de stabilité, on nous envoie du chaos. Donc dans ce chaos, qu'est-ce qui peut aider? Peut-être effectivement une union de la gauche. Mais c'est difficile, après tout ce qu'a fait les filles, encore une fois, des prises de position radicales, outrancières, qui ont laissé quand même beaucoup de blessures dans beaucoup de communautés à gauche. Quoi. C'est pas évident.
En tout cas, les appels se sont multipliés en faveur de l'union de la gauche. Il y avait une réunion cet après-midi.
Mais les sortants, la question des sortants est compliquée. Parce que est-ce qu'on va reconduire Boyard? Est-ce qu'on va reconduire Keke? Est-ce qu'on va reconduire des gens qui se sont prononcés ouvertement contre le soutien à l'Ukraine, par exemple? C'est des questions quand même importantes. C'est pas des petites questions. Et il va falloir les résoudre en quelques jours.
Et surtout, la NUPES a éclaté donc il y a, en 2022, suite aux législatives de 2022. Est-ce qu'il y a une NUPES bis qui peut se monter?
Non, alors on appelle ça Front Populaire et François Ruffin est à l'assaut. Alors François Ruffin a plutôt une meilleure image que Jean-Luc Mélenchon. C'est un garçon posé, il a dialogué avec Raphaël Glucksmann, ils ont montré leur capacité à ne pas hystériser le débat. C'est une vraie planche de salut si cette union pouvait se faire à gauche, mais c'est pas évident qu'elle arrive à se faire. La majorité aujourd'hui, elle a explosé façon puzzle. La plupart des députés, je ne suis pas certain qu'il y en a beaucoup qui ne repartiront pas. Il y a des ministres qui ont beaucoup mouillé la chemise, qui ne repartiront pas. Qui est-ce qui va être avec Emmanuel Macron pour ce combat-là? C'est un vrai point d'interrogation. Qui est-ce qui va conduire la campagne? Qui va être assez fou pour vouloir conduire la campagne dans ces conditions? Je ne sais pas. C'est le chef de l'État qui va y aller en direct. Bon, quand il s'exprime, moi je voudrais juste faire remarquer une chose, hein, c'est que ça a fait monter
le RN.
Donc,
ça a été le cas ces derniers jours, on l'a
beaucoup
vu. Ça a
été le cas ces derniers jours et c'est absolument contre-productif. Je ne dis pas qu'il faut qu'il se taise. D'abord, je ne me le permettrai pas, c'est le chef de l'État, mais simplement, il faut être un peu pragmatique. Ensuite, est-ce que le RN lui-même pourrait faire des erreurs ? C'est ce qu'escompte la majorité. Moi, je pense qu'une campagne ou une bataille qui se mène en pensant que l'adversaire est faible ou va faire des erreurs, elle n'est pas bien partie.
Frédéric Savicky, seule la gauche peut empêcher le RN de remporter une majorité à l'occasion des futures législatives en France ?
Alors, de deux façons. D'abord, par la capacité, effectivement, à s'unir et à présenter sur un programme minimum, puisque de toute façon, il n'y aura que 3 ans pour gouverner, un programme suffisamment clair et consensuel et que toutes les ambiguïtés, notamment sur les questions internationales, soient levées, ce qui n'est pas simple. Ce qui passe évidemment par des compromis, et notamment sur les circonscriptions, parce qu'on ne peut pas imaginer une reconduction du même rapport de force que celui de la présidentielle 2022. Bon, c'est peut-être possible. Et puis ensuite, elle peut aussi, j'allais dire, par son attitude pendant la campagne et aussi au second tour. C'est-à-dire que est-ce que, malgré tout, en cas de duel ou de triangulaire, elle accepterait de se retirer pour laisser passer un candidat centriste ou un candidat macroniste ? C'est pas du tout évident. Donc là, elle a quand même un levier. Comme incarnation d'une alternative, aujourd'hui, ça semble très, très compliqué. On ne voit pas comment la gauche pourrait, à elle seule, rassembler, gagner la majorité des sièges à l'Assemblée et pouvoir, en quelque sorte, imposer une cohabitation de gauche à Macron. Je vois pas là pour le coup où sont les forces électorales suffisantes qui le permettraient. En revanche, ce qui peut se passer aussi, c'est de l'autre côté de l'échiquier politique, c'est-à-dire que un accord ouvert passé peut-être entre les deux tours ou même en amont avec LR, j'en sais rien. Hein. Bon, là, vous avez vu que le Parti Renaissance s'est engagé à ne pas présenter de candidats contre des députés sortants ou des candidats LR qui ouvertement refuseraient l'alliance avec le Rassemblement National. Bon, ça.
Finalement, en gros, ce que vous dites, la gauche, vous avez du mal à croire qu'elle puisse obtenir une majorité relative. En revanche, la droite, les Républicains peuvent peut-être s'unir avec le parti présidentiel et renforcer finalement ce parti présidentiel et empêcher Jordan Bardella d'être Premier ministre, mais plutôt favoriser un Premier ministre issu du parti présidentiel.
Alors c'est vrai que si on se base uniquement sur le résultat des européennes, 15% plus 7%, ça fait loin du compte, sauf que là c'est quand même une autre élection, et puis LR a quand même une implantation dans le pays, quand je dis LR c'est aussi les UDI, les centristes, qui pourraient leur permettre quand même de conserver des circonscriptions, mais tout ça est très très hypothétique. Hein. L'hypothèse la plus probable aujourd'hui est quand même malheureusement une majorité non peut-être relative de députés RN, c'est-à-dire le fait que le groupe RN sera disons le premier groupe à l'Assemblée, ce qui veut dire aussi que ça bloquerait complètement toute possibilité de majorité alternative en dehors d'une alliance d'un gouvernement de rassemblement républicain droite-gauche.
D'un mot, ça augure quoi d'un Premier ministre ? Parce que c'est aussi ce qui intéresse les
électeurs.
Ça
veut dire que si vous regardez par exemple ce qui s'est passé ces dernières années dans différents pays, je pense à l'Italie, vous pourriez avoir la nomination d'un espèce de un technicien, comme on dit, un technocrate, ou alors une figure un peu, pourrait dire, consensuelle, qui gouverne avec un gouvernement chargé de gérer les affaires courantes, avec des gens pas trop marqués politiquement, et qui seraient soutenus à l'Assemblée nationale sur le budget. Ça arrive assez souvent dans beaucoup de pays de régime parlementaire.
Beaucoup d'incertitudes, en tout cas. On va évidemment y voir plus clair dans les prochains jours avec la campagne qui va s'accélérer. Merci beaucoup à vous trois, Jean-Philippe Moinet, Frédéric Savicky et Philippe Moreau-Chevrolet. Merci à Florence Ponce, Arnold Dassaoua à la préparation de ce débat qui est à présent terminé. Et merci à Arthur Geoffroy à sa réalisation. Allez, dans un peu plus d'une minute, ce sera Anne Corpé pour le journal de 20h. Et puis on va continuer à parler politique française dans le décryptage. L'extrême droite banalisée à l'issue des élections européennes. Juste après, ce sera l'heure d'Afrique Soir. Bonsoir Sylvie Berruet.
Bonsoir Romain.
Au programme ce soir.
Alors c'est l'inquiétude au Malawi hein, autour du sort du vice-président du pays. L'avion militaire transportant Solo Chilima est porté disparu. Les recherches sont en cours. Nous parlerons du procès du massacre du 28 septembre 2009 dans le stade de Conakry. La défense de l'ancien dictateur d'Addis Kam Camara plaide l'acquittement. Et puis, il y a du football. Nous nous parlerons de la suite de la quatrième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 en zone Afrique.
Eh bien, merci Sylvie Berruet. On reste à l'écoute, évidemment, de Radio France Internationale Afrique. Soir, la première édition, c'est